Kiosque Magazine.
Jeudi 16 avril, il fait beau à Montréal, c'est un peu frisquet. Kiosque Magazine vous parle comme à tous les jeudis d'économie et d'emploi et je sais que ça n'a strictement aucune importance puisque hier, le Canadien a planté les sénateurs d'Ottawa 4-3 et c'est la seule vraie nouvelle importante aujourd'hui. Quoi qu'on en dise et quoi que Clotilde Seille puisse vous raconter dans sa revue de presse, il y a une nouvelle importante, le quatrième trio a fonctionné hier. Voilà. Ceci dit, on va quand même faire des efforts honorables pour vous parler d'argent, de génération et puis de finances publiques. Tiens.
Oui, on va revenir un petit peu à des sujets plus sérieux. Enfin, François, je comprends votre enthousiasme, mais revenons à la réalité. Alors, oui, dans ces temps de grève à l'UQAM, grève fort intéressante à suivre dans son déroulement et dans ses énoncés, eh bien, je crois que c'est l'occasion de se poser des questions sur nos rapports avec les générations qui viennent. Alors, la question de ce rapport aux générations futures, elle est centrale. Alors, la blague de Groucho Marx, bien connue, hein, « Pourquoi me soucier des générations futures? Elles n'ont rien fait pour moi. Ben, » elle est assez grinçante. Et la destruction de la planète, de ses ressources, de ses écosystèmes, autant que des pensions pour une durée de vie de plus en plus longue, financées de plus en plus souvent par de la dette, eh bien, c'est autant de prélèvements faits par anticipation dans la poche de nos enfants, y compris pas encore nés. Eh bien, le fait qu'ils ne votent pas ne doit pas servir d'excuse. Pour continuer dans le même domaine, un article assez intéressant qui parle de la génération réaliste en matière de choix économiques, de décisions budgétaires, de stratégies à court, moyen ou long terme, il existe selon moi un tabou, une catégorie qu'on doit sanctuariser, hein, c'est bien l'éducation. Parce que on l'a déjà dit, mais un pays qui ne comprend pas que sa jeunesse est sa priorité, et donc le système éducatif l'est aussi, c'est un pays à la fois irresponsable et condamné. Alors, cette jeunesse, elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle pense de ce qui est bon pour elle et comment est-ce qu'elle envisage de faire de l'économie? Puis on termine, pour ce qui me concerne, par un sujet sur l'argent. Qu'est-ce que l'argent en 2015? Je sais que c'est un sujet théorique qui vous passionne beaucoup, François, et je sais aussi que vous rappelez souvent que l'argent n'a pas de valeur intrinsèque, avec raison. L'argent, il est simplement là pour qualifier des biens ou des services, mais attention, il ne faut pas le confondre avec ce qu'il permet d'acquérir. Surtout si ce que je veux acquérir est lié à une spéculation, par exemple la valeur de la maison que je vais acheter dans 10 ans. Si pour une raison ou pour une autre, son prix fluctue dans un sens ou dans l'autre, est-ce que la valeur de cette maison se résume uniquement à sa transcription monétaire? Eh bien, ce serait une excellente occasion de réfléchir sur ce qui sépare nos désirs et ce qui permet de les satisfaire via l'argent.
Et de mon côté, je vous parle également de génération, puisque une étude a été publiée cette semaine qui vient dire que oui, la classe moyenne est en déliquescence au Canada, mais pas toute la classe moyenne. La classe moyenne jeune. En fait, ce sont les jeunes qui souffrent le plus dans la classe moyenne. Les autres sont relativement à l'abri. On va voir ça un peu plus tard dans l'émission. Le vieillissement de la population tient à l'autre bout du spectre des générations. Une étude intéressante de l'IRIS qui vient dire que c'est probablement plus un épouvantail qu'une catastrophe économique appréhendée. On aura l'occasion d'y revenir aussi. Et je parle également de finances publiques avec Manon Cornelier qui, elle, s'interroge sur l'attitude du gouvernement fédéral dans cette matière. Voilà. Et tout ça commence dans quelques instants. Supposons que vous deviez 100 000 $ à votre banquier, que vous avez emprunté à 10 % d'intérêt. Par ailleurs, vous avez le choix entre continuer vos paiements ou rembourser par anticipation votre dette. Or, vous avez aussi un autre choix qui consiste à placer cet argent-là à 15 % d'intérêt, donc faire plus d'argent en le plaçant qu'en remboursant votre dette. Le choix réaliste à ce moment-là, c'est de ne pas rembourser par anticipation, de déposer ça dans vos placements et votre banquier va être content puisqu'il va avoir une garantie qui lui permettra éventuellement de refinancer votre dette pour moins cher puisque vous allez avoir des garanties derrière vous. Voilà. Et au Québec, cette attitude-là, elle existe. Ça s'appelle le Fonds des générations. Le but du Fonds des générations, c'est de permettre à Québec de placer de l'argent pour plus cher qu'il n'en emprunte ou qu'il n'en doit. Donc, résultat, au lieu de rembourser directement la dette du Québec, on met de l'argent dans le Fonds des générations, ce qui revient pas tout à fait au même, c'est positif puisqu'on a de meilleurs rendements. Voilà. Je vous présente donc le Fonds des générations en ces quelques paroles pour vous permettre à vous, Éric, d'aborder la question fâcheuse posée par Francis Weil dans la presse.
Et oui, parce que François, vous donnez une lecture un petit peu optimiste de ce que peut être le rendement d'un tel fonds, parce que tout ça, évidemment, c'est sans secousse économique, c'est en supposant que les rendements sont constants, en supposant qu'on ne s'est vraiment pas trompé dans des calculs qui me paraissent d'un optimisme un petit peu systématique. Mais bon... alors, effectivement, il existe depuis 2006 une loi qui a institué, vous le rappeliez, le Fonds des générations. C'est un bon principe, mais c'est une approche encore très timide. Donc, moi, j'aurais tendance à relativiser peut-être un peu. Et notre incapacité à financer les dépenses d'aujourd'hui par une seule épargne anticipée, notre tentation de sortir la baguette magique de la dette, moi, je trouve que c'est un peu irresponsable et, en tout cas, assez égoïste. Alors, je sais que le titre de l'article de Francis Weil est un peu provocateur, mais il ouvre...
Choquant même.
Oh là là. Bon, heureusement que ça s'est bien passé au hockey hier soir. Bon, on va quand même explorer la chose et puis vous verrez si vous voulez compléter. Devrait-on réduire nos versements au Fonds des générations pour bonifier les offres aux employés du secteur public? C'est ça la provocation, hein? C'est de mettre les deux termes comme ça en opposition.
Oui, c'est de supposer qu'on ne pourrait pas prendre d'argent ailleurs, ailleurs, par exemple dans le plan Nord, ou augmenter les impôts, ou aller chercher des taxes ici ou là, ou disposer autrement ces cartons. On met deux choix sur la table. C'est soit augmenter les offres dans le secteur public, soit mettre de l'argent dans le Fonds des générations.
Bon, je vous laisse. Bon, voilà. Donc, vous avez déjà relativisé la provocation. Ça va être plus facile d'avancer.
Non, je suis encore fâché.
Alors, devrait-on piger dans la cagnotte destinée à réduire notre dette pour conclure une entente négociée avec les syndicats? Cette question est au cœur des débats depuis le dépôt le dépôt du budget l'EITAO le 26 mars. Les syndicats, entre autres, jugent qu'il faut complètement cesser les versements au Fonds des générations et réinvestir l'argent dans la santé et l'éducation. Quand ils disent ça, ils veulent dire hausser les salaires dans les deux secteurs. Jeudi et vendredi, l'économiste de gauche, Louis Gilles, et l'ex-ministre libéral des Finances, Michel Audet, se sont relancés sur la question dans notre section débat. On parle là de la section débat du journal Le Devoir. Le premier soutient que les milliards de dollars qui y sont consacrés manquent dramatiquement au fonds public. Le second affirme plutôt que l'abolition du fonds serait très mal perçue par les agences de crédit et conduirait le Québec sur la voie de la facilité et même de la faillite. Qu'en est-il ? D'abord, il faut clarifier les faits au sujet de l'équilibre budgétaire. En vertu du plus récent budget, le Québec se dirige non pas vers un déficit zéro cette année, mais vers un surplus budgétaire. Ce surplus sera même de 1,6 milliard. Quand le gouvernement parle de déficit zéro, c'est le calcul après versement au Fonds des générations.
Donc, après computation d'un surplus.
Oui, tout à fait.
C'est quand même fâcheux. Là.
Ça oui, je vous l'accorde. Or, voilà, les versements prévus à ce fonds augmenteront rapidement au cours des prochaines années, atteignant même 3,5 milliards dans 5 ans en 2019-2020. En somme, le surplus annuel du Québec passerait de 1,6 milliard à 3,5 milliards dans 5 ans. Maintenant, pourquoi le gouvernement consacre-t-il autant d'argent à ce fonds alors qu'il sabre ses dépenses? Pour comprendre, il faut savoir que la loi instituant le Fonds des générations en 2006 a pour principal objectif de réduire la dette. L'argent du fonds est placé à la Caisse des dépôts et placements et rapporte de bons rendements. En juin 2006, la loi proposée par Michel Audet avait été appuyée par le PQ, mais jugée trop peu exigeante par l'ancêtre de la CAQ. Dans les jours qui ont suivi son adoption, deux agences de notation avaient relevé la note de crédit du Québec. La loi sur le fonds prévoit que la dette brute ne pourra excéder 45% de notre produit intérieur brut en 2025-2026. Autrement dit, dans 10 ans, notre dette ne devra pas dépasser 45% des revenus annuels réalisés par notre économie. Or, depuis 2006, la crise financière n'a pas fait réduire, mais a fait augmenter notre dette relative à 54,9% du PIB. Je fais une parenthèse pour dire, écoutez, ne vous plaignez pas, venez voir en Europe, où on dépasse allègrement les 95%.
Et j'ajoute ici une considération immédiatement, vous me le permettrez. Si notre dette est à 56% et qu'on n'emprunte pas d'argent, on fait juste équilibrer les finances publiques, la simple inflation va la faire passer à 45% en 2027. Alors, en bas de 45 % probablement. C'est le principe qui fait, ben, tout le monde le connaît, la maison, vous payez votre hypothèque sur 20 ans. À la fin, les paiements sont ridicules par rapport à la valeur de la maison et à sa prise de valeur. Bon, pardon, je vous ai encore interrompu.
Je vous en prie. Par conséquent, il faudra mettre les bouchées doubles d'ici 10 ans pour atteindre la cible de 45 % fixée dans la loi. D'où l'exigence de réaliser désormais des surplus budgétaires appréciables année après année. Il ne fait pas de doute que si l'on cessait complètement nos versements au fonds, comme le proposent les syndicats et Québec solidaire, les agences diminueraient notre note de crédit, ce qui augmenterait nos taux d'emprunt. Une simple hausse de 10 % de nos taux d'emprunt, par exemple, équivaut à environ 1 milliard de dollars qu'il faudrait combler avec d'autres compressions. Cela dit, une légère réduction de nos versements annuels au fonds n'aurait probablement pas, à mon avis, d'impact sur notre note compte tenu des surplus budgétaires importants en vue. Conséquemment, il pourrait être opportun d'utiliser cette marge, si petite soit-elle, pour obtenir une entente négociée avec les syndicats. Actuellement, le gouvernement propose 3 % de hausse salariale pour 5 ans à ses 540 000 employés syndiqués. En réduisant les versements annuels au fonds des générations de 10 %, soit environ 345 millions, le gouvernement pourrait offrir 4 % de hausse salariale sur 5 ans à ses employés. À cette bonification venant du Fonds des générations pourrait s'ajouter une hausse de 1 % conditionnelle à la croissance économique. Bien sûr, ce ne serait pas le pactole pour les syndiqués, mais dans le contexte actuel, il est permis de penser qu'ils ne feront aucun gain. Est-il préférable de manifester longuement, de faire la grève et de se faire finalement imposer un décret avec des hausses de 3 % ou de négocier 5 %? Pour le gouvernement Couillard et Martin Coiteux, piger dans le fond des générations serait certes un recul. Mais pour parvenir à traverser des tempêtes, il faut non seulement faire preuve de détermination, mais encore savoir faire certains compromis pour rallier les troupes. Au bout du compte, imaginez quelle victoire représenterait pour le Québec une entente négociée, mais raisonnable, avec les employés du public. Fini les grèves et les manifestations. Désormais, nos énergies seraient consacrées à d'autres enjeux. Le président de la FTQ, Daniel Boyer, appelle le gouvernement à négocier de bonne foi. Martin Coiteux demande aux syndicats d'être raisonnables et ouverts. Les deux camps sauront-ils faire rapidement des compromis pour sortir le Québec de la crise honorablement?
Je vous parlais la semaine dernière de la tentative fédérale de mettre en place une loi anti-déficit. Les gouvernements font souvent ça avant de partir, question de pérenniser leur attitude économique pour lier le gouvernement suivant. Ça a donné à Manon Cornelier l'occasion de revenir sur le sujet des finances publiques fédérales et sur un portrait de ce qu'a fait le gouvernement depuis 10 ans. Alors, ça nous donne un texte dont le titre dit à peu près tout, Le Paravent. Ça a été publié dans Le Devoir du 11 avril. Lundi, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il avait vendu ce qui lui restait d'actions à GM, un joli pactole qui pourrait valoir un peu plus de 3 milliards de dollars canadiens et qui arrive à point pour un gouvernement qui, malgré les contre-coups de la chute du prix du pétrole, veut équilibrer le budget à la veille des élections. Le ministre des Finances, Joe Oliver, qui disait mercredi pouvoir respecter cet engagement d'un budget écrit à l'encre noire, n'est pas revenu sur le sujet. Il a plutôt vanté la gestion du gouvernement Harper, attribuant son succès à son unique rigueur par rapport à l'irresponsabilité des partis d'opposition, en particulier des libéraux. Il craint tant leur incurie qu'il a annoncé la présentation prochaine d'un projet de loi anti-déficit. Il veut s'assurer que les futurs gouvernements affichent un déficit uniquement pour faire face à une récession, à une guerre ou autre crise majeure. Voilà qui fait sourire. Après tout, lorsque les conservateurs ont pris les commandes du pays en 2006, le pays, sous la direction du tandem libéral-chrétien-Martin, affichait des surplus depuis 1997. L'exercice a été douloureux, surtout pour les provinces, qui ont vu les transferts pour la santé, les programmes sociaux et l'éducation amputés de plus de 6 milliards. Mais ce sont encore les libéraux, cette fois sous Paul Martin, qui ont rétabli le financement de la santé avec un accord de 10 ans qui a pris fin l'an dernier et qui a épargné à Stephen Harper les psychodrames annuels sur le sujet. Le gouvernement Harper a le mérite, il faut le dire, de n'avoir jamais réduit ses transferts. Il a seulement annoncé le ralentissement de leur croissance à partir de 2017. Ça équivaut à une réduction, vu l'inflation toujours. Il a aussi toujours donné plusieurs années de préavis aux provinces avant l'entrée en vigueur de changement, sauf pour ce qui est du plafonnement du montant total de la péréquation. Ce même gouvernement a aussi dû affronter une des pires récessions depuis les années 1930. Il faut rappeler cependant qu'il en niait l'impact au départ. À l'automne 2008, il a même présenté une mise à jour économique qui annonçait non pas un plan de relance, mais des compressions. C'est parce que l'opposition se préparait à le défaire que M. Harper a prorogé le Parlement et refait ce devoir. Ce n'est que le fusil sur la tempe qui l'a bougé, avec un plan imparfait, mais qui a fonctionné. Ce plan a toutefois mis le pays dans le rouge, avec un déficit record de 56 milliards. Ce dernier aurait pu être moindre si les conservateurs n'avaient pas renoncé auparavant à des revenus importants, comme ces 2 points de TPS qui ont privé Ottawa d'au moins 12 milliards par année sans réel effet de levier. Cette perte de revenus permanente n'est pas la seule à être survenue sous ce gouvernement. Malgré la persistance des déficits, il a réduit à nouveau l'impôt des entreprises, empruntant pour leur permettre d'économiser entre 4 et 6 milliards par année. Et maintenant qu'il voit des surplus poindre à l'horizon, il se prépare à renoncer à d'autres revenus en offrant des allègements d'une équité douteuse. Réduire et éliminer le déficit n'est pas une mauvaise chose, car cela permet de réduire les frais de la dette et d'utiliser les fonds ainsi libérés à des fins plus utiles. Il n'y a rien de mal non plus à empocher les fruits d'un investissement comme celui fait dans GM. Mais dans ce dernier cas, il s'agit d'une injection de fonds momentanée. Elle ne se répétera pas l'année prochaine. Les avantages fiscaux sont en revanche permanents, car rares sont les partis qui osent promettre de les annuler. Il est donc nécessaire de les choisir avec soin pour s'assurer qu'ils servent la croissance économique et atténuent les iniquités. Sinon, on se retrouve à priver l'État de revenus nécessaires à la poursuite de ses objectifs. Or, c'est le cas avec la décision des conservateurs de permettre le fractionnement du revenu des familles avec enfants et de doubler le seuil annuel de contribution à un compte d'épargne libre d'impôt, le SELI. Dans le premier cas, le coût sera d'environ 2,2 milliards en 2015 et dans le second, il augmentera constamment avec les années. Le directeur parlementaire du budget calcule qu'il sera de 2,8 milliards en 2030 pour dépasser les 20 milliards en 2070. Ces deux promesses profiteront avant tout aux ménages mieux nantis, comme l'a démontré le directeur parlementaire du budget. Ce sont pourtant tous les citoyens qui subissent les conséquences des compressions imposées à l'appareil fédéral pour générer les 10 surplus. M. Oliver Vilipond, quiconque parle dépenses, mais il s'abstient de dire que ces mesures fiscales sont aussi des dépenses. Le ministère des Finances lui-même les présente comme des dépenses fiscales qui, d'ailleurs, n'ont jamais fait l'objet du même ménage que les dépenses de programme. Les réductions de taxes à répétition sont un choix idéologique défendu par un parti qui tient à limiter le rôle et la taille de l'État. Des allègements offerts, les plus coûteux et souvent les plus inéquitables, seront ce qui rendra difficile tout changement de trajectoire après les élections. La loi anti-déficit ne sera qu'un écran de fumée. Et je vous rappelle que le gouvernement fédéral présentera un budget la semaine prochaine où, effectivement, il cristallisera ces cadeaux fiscaux à l'approche des élections prévues pour cet automne, de façon à ce que les électeurs ayant reçu un chèque avant les élections dans leur boîte à mal se rappellent que le bon gouvernement Harper veut être réélu. Enfin, vous voterez pour qui vous voulez, voilà.
C'est la vie dans ce monde, triste réalité.
Voilà, on est de retour et cette fois pour vous parler de génération. En fait, que pensent les jeunes? Que veulent les jeunes? Qu'ont les jeunes en tête? Ont-ils quelque chose dans la tête? Autant de questions qui se sont posées récemment.
Oui, on pense souvent à la place de ceux qui vont nous succéder. On croit savoir ce qui est bon pour eux et puis, ou ce qui va être bon pour eux. Alors, est-ce qu'on s'interroge suffisamment sur leur vision des choses et est-ce que notre volonté de changer le monde, si elle existe, est la même que celle de la jeunesse? Eh bien, c'est une question en filigrane qui a intéressé Marco Fortier dans Le Devoir. Ils veulent bien changer le monde, mais un pas à la fois. La révolution, c'est pour les autres, la grève aussi. La génération des 18-34 ans se considère comme réaliste et ne compte plus sur l'État, les entreprises ou les syndicats pour améliorer la société. Un nouveau sondage explique les hauts et les bas du mouvement de contestation étudiante. Les jeunes sont aussi sages, prudents et pragmatiques que leurs aînés. Ils occupent le centre du spectre politique et craignent de laisser un héritage négatif aux générations futures. Ils se distinguent de l'ensemble de la population en étant écologistes. Ils sont plus divisés que le reste des Québécois au sujet de l'exploitation du pétrole. Les jeunes se montrent aussi davantage entrepreneurs que leurs prédécesseurs, révèle un sondage Léger mené pour l'Institut du Nouveau Monde. Léger, c'est le nom du sondage, c'est pas la caractéristique. Les jeunes disent qu'il y a des problèmes sociaux et qu'ils voudraient contribuer à les résoudre, mais ils ne sont pas sûrs qu'on va réussir à renverser l'ordre des choses, dit Michel Venn, directeur général de l'INM, Institut du Nouveau Monde. Ça explique le contexte social actuel. La grève étudiante ne lève pas. Les jeunes qui veulent changer le monde sont minoritaires. Ils se heurtent à la résistance des plus vieux et de leur propre génération. Certains des jeunes qui militent pour un changement social se sont radicalisés, explique-t-il. La nouvelle génération pose un regard pessimiste, on peut même dire réaliste sur la société, ajoute Michel Venn. Ce sondage fait partie de l'État du Québec, une publication de l'Institut du Nouveau Monde qui fait le point sur 20 enjeux chauds et qui sera lancé cette semaine. Ce vaste sondage a été mené entre le 23 et le 27 février 2015 auprès de 1062 répondants âgés de 18 ans et plus. Les enquêtes d'opinion menées par Internet sont non probabilistes et ne comportent pas de marge d'erreur.
C'est très prétentieux.
Les données finales du sondage ont été pondérées à l'aide des données du recensement de 2011 selon l'âge, le sexe, la langue maternelle, la région et le niveau de scolarité de façon à garantir un échantillon représentatif de la population selon la firme Léger. Plus de 6 électeurs sur 10 sont favorables à l'exploitation du pétrole au Québec, révèle le sondage. Les 18-34 ans sont toutefois moins convaincus que le reste de la population. 48% disent oui au pétrole québécois et 41% sont en désaccord. Curieusement, même s'ils approuvent l'exploitation du pétrole, 72% des répondants affirment que la protection de l'environnement doit passer avant tout. Toutes les générations sont sceptiques par rapport à l'élimination des hydrocarbures. Un électeur sur 5 croit que le Québec sera sans pétrole d'ici 25 ans. Une majorité claire de 64% des citoyens croit tout de même que la voiture électrique est une voie d'avenir pour le Québec. Les jeunes comptent d'abord sur eux-mêmes pour assurer leur avenir. Plus de la moitié des 18-34 ans ont déjà songé sérieusement à fonder une entreprise et à devenir leur propre patron. C'est davantage que les 35-54 ans et beaucoup plus que les 55 ans et plus qui ont pu compter sur des emplois stables et permanents. À peine 29% des baby boomers ont déjà pensé à se lancer en affaires. La population en général, y compris les jeunes, paraît divisée sur la pertinence des compressions budgétaires imposées par le gouvernement Couillard. 45% des répondants trouvent que les réformes vont trop vite et qu'il faut les ralentir. Une proportion comparable trouve plutôt que la révision des programmes se fait à la bonne vitesse ou qu'elle va trop lentement. Les Québécois sont aussi partagés sur la place des gouvernements pour assurer le bon fonctionnement de la vie en société. Économie, emploi, services, environnement, etc. 36% des répondants trouvent que l'État n'est pas assez présent. 26% affirment qu'il est trop présent et 27% qu'il est juste assez présent. Les 18-34 ans sont du même avis dans des proportions comparables. Par contre, les inégalités entre les riches et les pauvres préoccupent 56% des Québécois. Les inégalités entre pays riches et pauvres sont jugées moins importantes. 24% des répondants s'en préoccupent. Le sondage confirme aussi que les 18-34 ans accordent moins d'importance à la souveraineté du Québec qu'il y a 20 ans. Au référendum de 1995, ils appuyaient le oui à 60%. Ils ne sont plus que 39% à prôner la souveraineté, contre 37% de la population. Au fond, la génération montante a les mêmes rêves que les plus vieux, indique le sondage. Fonder une famille et bien gagner sa vie. Alors, je ne sais pas quelle leçon il faut tirer de cet article. Il ne se passe rien, c'est ça?
Moi, je pense que c'est Corneille qui l'avait dit. Hein? Rodrigue, au-dessus du cœur. La question était posée et tout était réglé. tiens, une nouvelle troublante. Vous rappelez-vous de la Commission canadienne du blé? J'en parle au passé comme si elle était déjà défunte. C'est devenu un organisme semi-privé qui va être totalement privatisé sous peu. La Commission canadienne du blé, c'était l'organisme qui achetait tout le blé et tout l'orge produit dans l'Ouest, et c'était le premier vendeur de céréales sur Terre à sa grande époque. Tous les agriculteurs des régions de l'Ouest étaient obligés de leur vendre leur récolte et la Commission les payait selon le prix du marché. C'était considéré comme socialiste par beaucoup dans l'Ouest. Alors, on l'a privatisé. Alors, imaginez-vous qu'une bonne partie de la Commission canadienne du blé va appartenir sous peu à un organisme qui est notamment propriété de l'Arabie saoudite.
Le taux de chômage s'est maintenu à 6,8% en mars au Canada, malgré la création nette de 29 000 emplois par rapport à février. C'est ce qu'indique vendredi l'Institut national de la statistique.
Et voilà qui met un terme à cette première moitié d'émission. On se retrouve dans quelques instants. À demeurer à l'écoute.
Vous écoutez Kiosk Magazine.
On est de retour pour la deuxième moitié de cette émission au cours de laquelle on vous parlera de vieillissement de la population, de la nature de l'argent, mais d'abord de jeunes encore, de jeunes puisque je vous parlais d'une étude en début d'émission, on est rendu là. Éric Desrosiers se penche sur la question avec un texte intitulé « Les jeunes ont raison de se plaindre ». D'ailleurs, je vais poser une question avant de commencer. Il y a combien d'Éric Desrosiers qui travaillent à la salle de presse du Devoir parce qu'il en signe des textes dans une semaine? Oui, c'est impressionnant. Enfin... Ce sont principalement les moins de 45 ans qui ont vu leur revenu baisser, leur endettement s'alourdir, les gouvernements leur accorder moins d'attention et leurs perspectives s'assombrir au cours des quatre dernières décennies au Canada, rapporte-t-on dans une étude de l'Université de Colombie-Britannique dévoilée mardi. L'ensemble de la classe moyenne canadienne n'est ni victime d'une érosion ni en pleine ascension, note son auteur, le professeur Paul Kershaw, qui est aussi le fondateur d'une organisation pour l'équité intergénérationnelle appelée Generation Squeeze. L'érosion est bien réelle, mais elle frappe principalement les Canadiens de moins de 45 ans, alors que le Canadien moyen de 55 ans et plus profite d'un meilleur niveau de vie que les précédentes générations de retraités. Le chercheur en veut pour preuve, entre autres, l'évolution du revenu individuel total médian, salaire, transfert des gouvernements, rendement de placement, etc., depuis 40 ans. Une fois prise en compte l'inflation, ce revenu a reculé de 12 % pour les Canadiens de 25 à 34 ans, en dépit d'une multiplication par deux de leur taux de diplomation postsecondaire, alors que les individus âgés de 35 à 44 ans ont accusé une baisse de revenu de 7 % Les 45-54 ans, moins 2 % et 55-64 ans, plus 2 % ont quant à eux fait du surplace pendant que les 65 ans et plus ont amélioré leur sort de 74 %. Ces données cachent encore une fois une différence, explique-t-on, mais cette fois entre les hommes et les femmes. La baisse de revenus a surtout été le fait des jeunes hommes, alors que les plus vieux ont peu bougé. Les femmes, par contre, ont réalisé un important, bien qu'incomplet, rattrapage, avec un gain pour celles qui travaillent à temps plein de 6 % chez les 25-34, de 25 % chez les 35-44 ans et de 35 % chez les 45-54 ans. Ce rattrapage des femmes a permis d'améliorer le revenu des ménages de l'ensemble des groupes d'âge, mais encore une fois, principalement au profit des plus âgés. Ainsi, les revenus totaux des ménages de 25 à 34 ans étaient 9 % plus élevés entre 2007 à 2011 que les revenus des ménages du même groupe entre 76 et 80. La progression a toutefois été de 12 % pour les ménages de 35 à 44 et de 21 % pour les 55-64 ans et 51 % pour les 65 ans et plus. Ces modestes gains pour les ménages, les plus jeunes sont loin d'avoir été de même ampleur. Ces modestes gains pour les ménages, les plus jeunes sont loin d'avoir été de même ampleur que l'explosion de certains prix, notamment celui des maisons. En dollars de 2013, le prix moyen d'une maison au Canada est passé de 203 000 en 1976 à 383 000 en 2013. Et je rappelle qu'on considère ainsi ici l'inflation. Il fallait 5 ans pour économiser les 20 % de mise de fonds nécessaires à l'achat d'une première maison. Il en faut maintenant le double. Il n'est pas étonnant dans ce contexte que la proportion de ménages propriétaires de leur logement ait reculé de 42 à 37 % chez les plus jeunes, alors qu'il a augmenté de 63 à 71 pour les plus vieux. Les ménages qui ont eu la chance d'acheter leur maison avant que ne s'envolent les prix immobiliers se retrouvent aujourd'hui avec un bel actif financier, alors que les autres doivent aussi composer avec une hypothèque plus lourde. Au final, l'écart de richesse s'est creusé entre les plus jeunes et les plus vieux au pays, note Paul Kershaw. Une récente étude de la Banque de Montréal a estimé qu'au début des années 80, le patrimoine du Canadien moyen de 55 ans et plus était quatre fois plus élevé que celui de son compatriote de 25 à 34 ans. Cet écart serait aujourd'hui de 9 contre 1. On pourrait ajouter à cela toutes sortes d'autres considérations qui réduisent la future marge de manœuvre des générations montantes, fait valoir l'auteur de l'étude. Le poids de la dette par rapport à la taille de l'économie a par exemple plus que doublé en 40 ans. On sait aussi désormais qu'un nouveau modèle de développement devra être trouvé si l'on veut qu'il nous reste encore une planète où vivre. Je vous parlais, voici quelques semaines, voire même quelques mois de cela, d'une fâcheuse habitude qui s'était dessinée sur les billets de 5 $, à savoir dessiner Spock sur le visage de Wilfrid Laurier. Je continue à trouver ça hallucinant de ressemblance quand c'est terminé. J'ai essayé moi-même. Bon, voilà, je l'ai dit. Parce que c'est pas illégal, effectivement, ça n'est pas illégal au Canada de dessiner sur la monnaie. Bon. Ceci dit, le gouverneur de la Banque du Canada, qui est lui-même un sacré tricky, a décidé que c'était pas la bonne chose à faire et a voulu le décourager. Et Mme Wilkins, une de ses adjointes, dit que c'est une pratique inappropriée parce que l'argent du Canada, ça devrait être une fierté nationale pour les Canadiens. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'argent? Est-ce que c'est un Spock dessiné, une fierté nationale?
Alors, vous posez la question, c'est une excellente question parce que qu'est-ce que l'argent? C'est presque une réflexion philosophique, hein, et c'est d'ailleurs ce qui a intéressé Michel Santi dans la tribune. Il nous invite d'une part, à inventorier quelques mutations que subit l'argent en tant qu'outil, et d'autre part, à se souvenir, je le rappelais tout à l'heure, que la valeur d'un bien n'est pas déterminée par l'argent, elle n'est que transcrite par lui. Et ça fait une très grosse différence, au moins pour aborder la réflexion sur l'argent. L'argent n'est qu'un moyen de paiement. Du reste, tout médium généralement accepté en tant que paiement pour des marchandises et pour des services est par définition assimilable à de l'argent. Cette qualification de l'argent autorise en conséquence de constater plusieurs types d'argent en circulation et en usage dans nos sociétés et économies. En effet, les billets de banque et transactions électroniques affectant nos comptes bancaires sont loin d'être la seule forme de monnaie d'échange utilisée. Certes, la monnaie scripturale et fiduciaire, alors la monnaie scripturale c'est celle que vous écrivez, vos comptes, et fiduciaire c'est les espèces que vous avez dans votre portefeuille, est incontestablement un déterminant majeur de notre identité nationale. Ainsi, il va de soi que le dollar américain, le yen japonais et même l'euro invoque et évoque chacun à sa manière un contexte politique et social très différent. Est-ce qu'il change quand on griffonne sur les billets? Je ne sais pas, vous nous le direz peut-être, François. De même, le contrôle de sa monnaie par une nation est-elle un des attributs fondamentaux de sa souveraineté? Le corollaire étant qu'un pays qui indexe sa monnaie nationale à une monnaie étrangère, par exemple la dollarisation de certains pays en développement, ou qui délègue sa politique monétaire à une banque centrale supranationale, ce que font les membres de l'euro, c'est un pays qui perd sa souveraineté monétaire et qui ne parvient plus à contrôler ou à réguler l'argent en circulation sur son territoire.
Parlez-en en grec.
Oui. Ceci étant dit, si les espèces constituent le premier médium de paiement au sein des pays en développement et des émergents, ce sont les paiements par compte et par carte bancaire qui prédominent de très loin au sein des sociétés économiquement développées. Les transactions électroniques sont donc de facto devenues de l'argent. Comme ces comptes et autres cartes de paiement sont émises et contrôlées par le système bancaire, il est possible d'en déduire que ce sont les banques et que ce sont les crédits bancaires qui, au sein des économies modernes, créent désormais l'argent. Il en est autrement des pays en développement où, du fait de l'utilisation toujours massive de cash, la création monétaire du système bancaire privé a nettement moins d'importance. Pour autant, l'usage des espèces tend également à disparaître dans certaines nations émergentes pionnières, comme au Kenya, où elles sont progressivement remplacées par les paiements via téléphone mobile et e-crédit. Comme ces moyens de paiement sont échangeables à tout moment avec la devise du pays à un cours déterminé par le prestataire de service, le e-crédit devient donc du coup une alternative viable à la monnaie nationale. Du coup, il est possible de conclure que plusieurs monnaies d'échange sont admises dans un pays comme le Kenya. Pour autant, ces nouveaux moyens de paiement ne sont pas les seuls à être admis dans nos sociétés car ils coexistent à côté d'autres formes d'argent qui ne sont pas directement convertibles contre la monnaie nationale. Ainsi, les cartes émises par certains commerces, comme les cartes émises par les compagnies aériennes, offrant des miles à leurs utilisateurs, permettent pour les unes de faire ses achats dans les magasins concernés et pour les autres de les échanger contre des billets d'avion, voire d'acheter des biens et marchandises dans certains commerces affiliés. Si ces moyens de paiement ont un usage par définition restreint, ils peuvent néanmoins être qualifiés d'argent, car ils sont aussi un médium d'échange. Il en va de même des monnaies électroniques internationales comme le Bitcoin ou PayPal qui disposent de leur propre réseau et qui sont désormais accessibles pour paiement sur téléphone portable. Par ailleurs, la dette publique est une ultime forme d'argent, très couramment employée parmi les intervenants des marchés financiers. La dette publique de certains États fiables, États-Unis, Allemagne, France, etc., est en effet abondamment utilisée comme moyen de garantie et comme pourvoyeuse de liquidités dans l'ensemble du circuit tentaculaire de la finance mondiale. En dépit de toutes ces représentations et de toutes ces formes variées, l'argent n'a pourtant aucune valeur intrinsèque. Sa seule utilité est de quantifier des denrées et des services, sinon impossible à comparer l'un à l'autre. Voilà pourquoi l'argent est très souvent confondu avec ce qu'il nous permet de nous payer, et voilà pourquoi l'importance accordée à ce médium d'échange n'est en réalité qu'une projection, souvent une obsession, de ce qu'on voudrait acquérir. L'argent a donc totalement perdu sa fonction originelle, neutre et relative, car la valeur d'un bien qu'il permet d'acheter diffère considérablement d'un usager à l'autre. L'argent n'est par exemple d'aucune utilité en cas de famine, si je ne parviens pas à l'échanger contre du pain.
Sauf qu'il est probable que vous aurez du pain avant un pauvre.
Oui, s'il y a du pain. Il est vrai, à l'inverse, que les biens, même les plus tangibles, comme par exemple l'immobilier, n'ont de la valeur que parce qu'il est possible de les échanger contre une forme d'argent. S'il n'est pas surprenant que l'on opère une confusion entre l'argent et ce qu'il nous permet d'acheter, il est pourtant crucial, économiquement et philosophiquement, d'opérer une distinction claire entre médium d'échange et objet de nos désirs. En effet, si l'or représente une valeur souvent refuge, il n'est en aucun cas assimilable à l'argent car il ne peut plus être échangé comme moyen de paiement depuis l'abolition de l'étalon or. Tout sujet de fixation d'angoisse primaire, voire barbare qu'il fût, l'or est donc bien distinct de l'argent. Il dispose certes d'un pouvoir d'attraction pour les obsédés de l'inflation et ceux qui ont perdu confiance en une monnaie dont ils n'ont plus confiance du fait de la création monétaire intensive des banques centrales, mais l'or n'est pas de l'argent. En définitive, l'argent doit impérativement circuler et il perd toute son utilité pour la société s'il est conservé, épargné, caché. Son usage, sa dépense et son investissement doivent être encouragés car ils permettent de promouvoir la croissance, tandis que l'interruption de son utilisation paralyse la société et rend l'argent aussi inutile que les lingots d'or. Pour autant, la prolifération actuelle des différents médiums d'échange fausse la donne. En effet, comment prétendre définir ou contrôler l'argent et comment l'utiliser de manière optimale pour la société en présence de tant de nouveaux moyens de paiement? Un Bretton Woods entièrement dédié à redéfinir l'argent s'impose donc. Moi, j'aime bien la réflexion qui est présentée dans cet article et je trouve que insister sur le fait qu'il vaudrait bien mieux effectivement investir plutôt que thésauriser et l'épargne a des métros de retard par rapport à la façon dont l'économie aujourd'hui se développe. C'est un peu la même chose que la réflexion par rapport au salaire. Aujourd'hui, bah écoutez, si on transformait tous les salariés en actionnaires, il y aurait un bouleversement dans l'économie, dans le fonctionnement économique et dans le fonctionnement social qui serait peut-être tout à fait intéressant. C'est à mettre en parallèle avec cette évolution sur l'investissement par rapport à l'épargne.
Oui, quand j'ai lu ce texte, moi, ma réflexion m'a conduit à... Oui, mais que fait-on du fait que l'argent est devenu lui aussi un produit? On achète de l'argent, on vend de l'argent, on le thésaurise, vous l'avez dit. On fait des produits dérivés sur l'argent, mais l'argent a perdu sa fonction... Bien, a encore sa fonction primaire, mais elle est devenue secondaire par rapport à tout ce qu'on fait avec aujourd'hui, qui sont des créations, mais complètement artificielles de l'économie moderne.
Eh bien, quand vous posez la question « qu'est-ce qu'on fait ?», la réponse, on fait quoi, la crise financière ?
Ce qu'on veut. sèche mon papier pour faire teindre mes cheveux, ça coûte de l'argent. L'argent fait le bonheur, l'argent.
L'argent fait le bonheur, par les respectables, un succès souvenir. Moi, je pose la question, l'argent fait le bonheur, mais ciel de qui? Parce que c'est pas mon cas, je vous le dis franchement. Bon, il doit y avoir une minorité d'élus quelque part qui en profite. Non, il y a une minorité d'élus quelque part qui en profite. Enfin, je vous parle maintenant de vieillissement de la population, puisqu'il y a une étude de l'IRIS qui a été publiée cette semaine qui tranche, je dirais, avec les opinions généralement reçues. On s'imagine tous que ça y est, on a rendez-vous avec le destin parce que la population vieillit et que ça va nous coûter une fortune, toutes ces personnes âgées sous peu. Bien, il semblerait que ce ne soit pas aussi dramatique que ça. Le vieillissement de la population ne fera pas bondir les coûts, c'est un texte de Jessica Nadeau publié dans Le Devoir du 14 avril. Contrairement aux discours entendus sur plusieurs tribunes ces dernières années, le vieillissement de la population ne fera pas bondir les coûts du système de santé, soutient l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, dans une nouvelle étude dont Le Devoir a obtenu copie. Les chercheurs soutiennent même que ces scénarios catastrophes sont une porte d'entrée pour favoriser le privé. Il n'y aura pas de choc démographique, peut-on lire dans la dernière note socio-économique de l'IRIS sur le vieillissement de la population. La notion de choc démographique a été mise en avant par des analystes adoptant une posture alarmiste sur l'évolution de la société. Dans bien des cas, ces intervenants avançaient aussi des propositions de réformes politiques radicales en écho à leur portrait d'une situation critique des effets du vieillissement sur les finances publiques. Le rapport, qui se base sur les dernières projections démographiques de l'Institut de la statistique du Québec, fait état d'une population qui croît plus rapidement que prévu en raison d'une immigration plus forte et d'un taux de fécondité plus élevé. Ces nouvelles projections relativisent déjà ce que certains présentent comme un choc démographique menaçant le Québec, écrivent les chercheurs Francis Fortier et Guillaume Hébert. Le nombre de personnes âgées augmentera bel et bien 2 millions d'individus. Mais comme il y aura plus de personnes dans la population active que ne le prévoyait le scénario de référence en 2003, la proportion devra atteindre 27,5% plutôt que 30 si l'on étire les projections jusqu'en 2050. Plutôt que le choc démographique annoncé, le vieillissement de la population serait un phénomène graduel qui nécessite différentes adaptations. Ce phénomène normal ne devrait pas semer la panique et ainsi risquer de nous faire adopter les mauvaises politiques publiques, voire même d'alimenter un certain ressentiment envers les personnes les plus âgées.
Les chercheurs se sont penchés de façon plus spécifique sur les conséquences du vieillissement de la population sur les coûts de santé. Ils contestent vivement les résultats obtenus par d'autres chercheurs dans le passé. Des études nous disaient que les coûts allaient exploser, qu'on allait atteindre 13% du produit intérieur brut. On parlait de 60 milliards de dépenses de santé. Et finalement, pour toutes sortes de raisons, ces projections ne tiennent plus la route, explique le chercheur Guillaume Hébert en entrevue au Devoir. Ce dernier juge qu'il était important de rétablir les faits, car ces études avaient fait grand bruit et continuent d'alimenter les craintes de la population. Le vieillissement de la population à lui seul ne jouera pas un rôle déterminant dans l'évolution des dépenses de la santé. Prise isolément, cette variable sur laquelle il n'y a guère possibilité d'exercer un contrôle politique n'empêcherait pas le maintien des services actuellement offerts, écrivent les chercheurs. Et j'insiste là-dessus, les services actuellement offerts, parce qu'un des problèmes en santé, c'est qu'on offre de plus en plus de services de plus en plus chers. Ce sont les nouveaux services qui plombent le régime. Si maintenir un strict contrôle des coûts de la santé s'avère une priorité au Québec, il faudra plutôt cibler les éléments qui ont un plus fort impact sur l'évolution de ces coûts, notamment l'effet de l'évolution technologique sur les dépenses de santé. L'IRIS parle d'une augmentation des coûts liés au vieillissement de la population d'à peine 1,28%. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut maintenir le même niveau de soins que ce qu'on offre présentement avec le vieillissement de la population, ça va faire augmenter les coûts d'à peu près 1,28% par année, ce qui est tout à fait soutenable, explique M. Hébert. Selon lui, le discours alarmiste sert à mettre la table à une privatisation des soins. Quand on présente l'État comme étant incapable de supporter l'offre de services de santé, bien souvent, les gens vont dire qu'il faut appeler le privé à la rescousse. Il y a une philosophie générale qui va dans cette direction-là. Et j'ajoute ici, quand on veut, par exemple, couper le déficit et dire « il y a urgence, on vieillit, on va produire moins, il faut nécessairement le faire maintenant », c'est tout ce discours-là qui tend à créer « il y a un mur qui s'en vient, il faut réagir avant », alors que ce mur-là n'existe peut-être pas. L'étude conclut que le plus grand risque en matière de vieillissement concerne bien davantage l'idéologie néolibérale qui préside à la quasi-totalité des réformes étatiques et des changements dans les politiques publiques. C'est vraiment une étude qui tranche par rapport à ce qu'on entend depuis une dizaine d'années, à ce grand rendez-vous qu'on a avec la vieillesse.
Oui, mais moi, je ne vous cache pas que les arguments qui sont présentés ne me paraissent pas tout à fait convaincants.
Ah, ça devrait être étoffé dans les prochaines années, mais c'est le cas des études qui viennent d'organisations progressistes et elles sont malheureusement minoritaires, voilà. Pour mémoire, je vous rappelle que le Japon a déjà rencontré ce mur-là et il survit très bien.
Tiens, pour conclure avec les manifestations étudiantes, eh bien, savez-vous comment les étudiants se sont vengés des asperges comment est-ce qu'on dit quand on asperge le... l'histoire du gaz, là.
Oui.
Leur site internet, celui de la police de Montréal, a été piraté pendant deux jours. C'est les Anonymous qui ont signé ça en disant que c'était pour protester contre les jets de gaz.
Si vous voulez faire chanter un Beatle gratuitement, il y a une solution facile, tuer un phoque. Paul McCartney a récemment réitéré sa sortie contre la chasse aux phoques qui a débuté effectivement à Terre-Neuve et dans les Îles-de-la-Madeleine. Chasse qui s'annonce moins productive cette année puisque avant de tuer un phoque, il faut avoir un débouché pour la peau et il y a de moins en moins de débouchés pour cette peau.
Ça fait un moment que je n'avais pas parlé des lunettes Google, et pour cause, puisque soi-disant elles ne sont plus en fabrication. Eh bien, il y a un autre fabricant qui a repris le flambeau, c'est Mini, les voitures Mini. Alors, Mini, ils vous donnent des lunettes quand vous achetez une voiture. Alors, dans la boîte. Vous mettez les lunettes, vous ne pouvez plus prendre de passagers. Mais bon, dessus, qu'est-ce que vous avez? Alors, la route, la vitesse autorisée, les places de parking libre, c'est extraordinaire. Donc, on était déjà complètement fou dans le simple fait de conduire une voiture, eh bien on le sera doublement grâce aux lunettes. Merci Mini.
Deux toutes petites brèves en matière de santé. La première nous parle de pharmaciens, de l'ordre des pharmaciens et de fraude. Il y a un pharmacien, et je vais le nommer pour que tout le monde le connaisse bien, Dikram Carlosian, qui était pharmacien salarié à Montréal, qui estimait que son salaire de 55 $ de l'heure ne lui permettait pas de vivre. Alors il s'est mis à piger dans la caisse.
Il s'est mis à faire des fausses factures pour les cartes de crédit. Il s'est mis surtout à faire de fausses ordonnances pour augmenter ses revenus à lui. Voilà. Alors, il a été pincé par son ordre récemment qu'il ne l'a pas radié. Ils l'ont suspendu pendant 3 mois puisque M. Carlos Yann, je le renomme avec bonheur, a maintenant acheté sa propre pharmacie et a pignon sur rue. On n'a pas voulu faire fermer le commerce. Alors voilà, au lieu de le radier, on l'a suspendu pendant 3 mois. Je me demande ce qu'il faut. Deuxième petite nouvelle en santé, tout aussi choquante. J'enchaîne immédiatement là-dessus. Il y a un marché noir qui se développe principalement dans les Laurentides, semble-t-il. On le sait, dans les établissements de santé publique, les CHSLD, il est prévu un bain par semaine pour nos aînés, les personnes qui y résident, ce qui n'est pas beaucoup. Si vous en voulez un deuxième, bien, il y a moyen, semble-t-il, de glisser un petit 20 $ à un préposé qui va rester après son quart pour vous aider à prendre votre bain ou votre douche. C'est tout un marché noir qui se développe sans facture, sans reçu, sans impôt.
Pour rester dans le domaine de la santé, vous savez qu'il y a un mouvement qui se développe pas mal dans les pays développés en ce moment, qui est le refus de la vaccination, et qui est directement lié au fait qu'on n'a plus du tout la conscience de ce que sont les maladies contre lesquelles on se prémunit quand on se fait vacciner. Alors, il y a des pays qui commencent à réagir, et notamment l'Australie. Eh bien, en Australie, c'est simple, pas de vaccination, pas d'allocation.
Oui, c'est une méthode efficace. Environnement, tiens, il y a la secrétaire générale de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Cristiana Figueres, je l'ai nommée aussi, voilà, c'est fait, qui en a fumé du bon, je le dis franchement comme ça, puisqu'elle s'est pointée à Québec en demandant à l'économie canadienne de renoncer au pétrole, de rien de moins. Mettons que c'est pas fait, Mme Figueres, je veux pas vous déprimer. Ceci dit, à ce forum-là de Québec où les premiers ministres devaient se réunir, eh bien, sachez que le premier ministre de l'Alberta ne vient pas, c'est le principal intéressé, que le premier ministre du Canada ne s'y pointe pas, qu'aucun ministre canadien ne s'y pointe. En fait, ils ont envoyé un fonctionnaire pour prendre des notes, c'est tout simple.
Pour aller dans le même sens et soutenir ces bonnes paroles, peut-être que la ville de Montréal les a entendues, puisque après les vélos en libre service, eh bien Montréal veut se doter d'un système pour véhicules électriques en libre service. Et c'est sur le point de naître, hein. Il y a un appel d'intérêt international qui va être lancé par l'administration Coderre et on attend avec impatience ces belles voitures silencieuses et propres.
On en avait parlé à cette émission. Angela Merkel a été réélue, mais pas à la tête d'un gouvernement majoritaire. Ça l'a contrainte à former une coalition avec des gens un peu plus à sa gauche et donc à mettre en place un salaire minimum. C'était le prix de l'adhésion de son parti allié, finalement. Alors, on a mis en place en Allemagne un salaire minimum, mais on appréhendait une catastrophe, évidemment. Puis il faut savoir que l'Allemagne, c'était en Europe le pays des petits boulots. Il y a même un mini-job, ça s'appelle comme ça, une espèce de contrat de moins de 450 euros où on vous facture le nombre d'heures que ça prend pour faire le travail, sans égard à ce que vous allez mettre comme énergie. Alors, non, la catastrophe économique appréhendée ne s'est pas produite. Il y a bien des prix qui ont augmenté, notamment dans l'est du pays où l'économie est plus tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'y a pas eu de catastrophe économique. Le salaire minimum n'a pas fait tout tomber. Voilà.
On avait parlé la semaine dernière d'un stylo qui permettait de lutter contre le Parkinson, vous vous souvenez peut-être. Eh bien maintenant, pour lutter encore mieux contre le Parkinson, on a découvert qu'il fallait danser le tango.
Et pourquoi pas danser? Au moins, vous oublierez que vous êtes malade. Alors voilà, nous vous avons présenté cette édition du 16 avril 2015 de Kiosque Magazine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au micro avec vous depuis 1 heure, François Brodeur et Éric de Belval. On remercie Rémi Hermoso à la mise en onde et aux choix musicaux de cette émission. Merci et au revoir. Thank you.